RCF.
Série d'entretiens sur le thème de la jalousie en compagnie de Marie-Reine Mezzaroba, auteure du livre « Ce que dit la Bible sur la jalousie » paru chez Nouvelle Cité. Marie-Reine Mezzaroba, vous expliquez bien que quand le jaloux passe à l'acte, ça fait des dégâts. Et qu'on trouve dans la Bible un texte particulièrement éclairant à ce sujet, c'est l'histoire que l'on connaît de Caïn et Abel. On a là l'archétype de toute relation de jalousie.
Je ne sais pas si on a l'archétype de toute relation, mais en tout cas de la relation fratricide, c'est-à-dire de la relation de la jalousie à l'égard du frère devant le personnage du père ou de Dieu qui est censé, c'est comme ça que je le comprends, qui est censé n'apprécier le sacrifice ou l'amour, la marque d'amour, que d'un de ses deux enfants.
Alors, on va rappeler hein, le texte brièvement. Il s'agit d'offrir des offrandes,
oui. Hein,
Caïn et Abel. Et alors, Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Donc, on peut se dire, c'est normal qu'il soit jaloux.
Oui, c'est normal. Alors, je vois qu'il y a des tas d'exégètes ou de gens qui essayent de savoir si le sacrifice de Caïn était moins bon que celui d'Abel. Mais je crois que la question est vraiment pas là. Et on nous donne aucune raison. On nous dit que Dieu n'agrée pas. Alors ça, c'est violent. Hein. Et effectivement, ça provoque la jalousie, y compris quand nous, on entend ça. On se dit, mais c'est quand même pas juste. Pourquoi il n'accueille pas le cadeau de l'un et il accueille le cadeau de l'autre. C'est absolument injuste. Et je crois que nous partageons, à ce moment-là, en lisant le récit, la jalousie de Caïn, et on se dit qu'elle est légitime.
Alors, on peut se centrer effectivement sur pourquoi le père n'agrée pas les deux équitablement, mais vous nous déplacez et vous nous entraînez du côté de Caïn, de voir ce qui se passe en lui.
Oui, parce que en réalité, ce que je dis aussi, c'est que le véritable homme auquel s'intéresse la Bible, c'est Caïn. Abel, ça veut dire nuée, ça veut dire buée.
C'est...
Et puis, Dieu ne parle pas à Abel, mais à Caïn. Pour dire à Caïn, le péché est tapis à ta porte, toi domine-le. Donc, Dieu nous dit, à nous qui sommes Caïn, regarde, quand tu vois que tes parents accueillent le cadeau de ta sœur et que tu te dis, et moi, j'avais aussi apporté quelque chose et elle l'a même pas vu, vrai ou faux. À ce moment-là, on est malheureux et on se dit, je n'ai pas la vie.
Non seulement je n'ai pas la vie, mais dans le texte, on dit que la face tombe chez Caïn. C'est très fort, ça
oui.
veut dire qu'il est pratiquement dépersonnalisé avec cet événement. Il se croit dépersonnalisé.
Ah oui, il s'effondre.
Il s'effondre. Et alors, c'est là où Dieu, justement, lui parle.
Dieu lui parle, il lui dit, si tu es bien disposé, tu vas te relever. Donc, il lui fait son éducation. Et je dirais que la Bible passe son temps à faire ça, à nous dire, mais regarde ce qui te guette, fais attention et voilà comment tu vas t'en sortir. Bon, là, en l'occurrence, sur le moment, il va pas s'en sortir tout de suite parce que, justement, il est quand même très démuni.
En tout cas, Dieu offrait là à Caïn l'occasion de parler. Et nous avons dit précédemment que quand on traverse la jalousie, il est bon qu'on nous donne la parole pour s'exprimer. Et que parfois, les parents ne le font pas avec les enfants.
C'est vrai.
Donc là, c'est une perche tendue pour ne pas être dans le déni. Mais pourquoi la parole nous ferait sortir de la jalousie s'il avait osé parler?
Je crois que quand on parle, on passe déjà pas à l'acte. Ça permet de mettre à distance aussi ce qu'on ressent. Et c'est vrai, vous dites ça, et d'autres auteurs ont remarqué que Caïn entraîne Abel dehors, mais qu'il n'échange pas un seul mot avec lui. Il lui dit même pas, je comprends pas pourquoi Dieu a agréé ton sacrifice et pas le mien, je suis en colère, enfin, il lui dit rien, il se précipite sur lui et il le tue.
La conséquence de la non-parole, c'est le passage en acte en violence.
Oui, c'est que Caïn finalement reste seul, il reste seul par rapport à Dieu dont il se sent abandonné et dont il n'a pas entendu. Qui lui parle, et il reste seul par rapport à son frère, dont il est, j'allais dire, uniquement jaloux. Parce que on peut être jaloux en partie, mais là, il est prisonnier d'une sorte de jalousie intégrale.
Je reviens sur la réaction de Caïn, qui se met en colère parce que il pense que son offrande n'a pas été agréée, on peut se dire, est-ce que c'est pas dans son imaginaire qu'il pense que il n'a pas été reconnu?
Moi, je crois ça. Je crois franchement ça. Quand on voit comment ça se passe dans les familles, on voit bien qu'il y a des situations où quelqu'un a été objectivement dévalorisé, objectivement humilié. C'est arrivé. Mais dans bien des cas, c'est même pas ça. C'est le fait de constater que les parents admirent l'autre, le félicitent, il a fait quelque chose de bien. Et à ce moment-là, on revient sur soi en disant « et moi ?» Et je crois que dans bien des cas, moi, je vois bien la jalousie comme imaginaire. Et quand bien même elle est réelle, je crois qu'on est appelé aussi à la dépasser. C'est-à-dire que quand bien même on a un motif réel de jalousie, c'est-à-dire quand bien même le frère a été objectivement préféré et qu'on a été objectivement méprisé ou rejeté, ce qui existe dans certaines vies, je crois que même ça, on est appelé à le dépasser. Parce que si on vit dans la rancœur permanente de dire « et à moi, on n'a pas fait attention », eh ben on est perdu.
Ça pourrit la vie.
Ah, ça pourrit la vie complètement. Que ça soit imaginaire sans que ça ait eu lieu, ou que ça soit imaginarisé alors que ça a eu lieu, on est appelé, je crois, à se détacher de cette impression d'être exclu de la vie, de pas avoir été aimé, que ça soit juste ou faux.
Marie-Reine Mezzaroba, vous citez dans votre livre sur la jalousie un autre passage de la Bible où la jalousie va s'attaquer à la vie. C'est dans l'Évangile quand le roi Hérode massacre des enfants innocents après la naissance de Jésus. Alors qu'est-ce qui se joue là autour de Jésus et d'Hérode ?
Moi, ce que je comprends, c'est que on vient dire à Hérode que le roi des Juifs est né. Le roi des Juifs, c'est lui. Donc, cet enfant vient prendre sa place. Et en plus, les mages ont berné Hérode parce que ils sont venus lui demander à lui où était le roi des Juifs qui venait de naître. Et lui leur a dit, quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire. Et puis moi aussi, j'irai l'adorer. Donc ça, c'est un beau mensonge. Et comme les mages repartent par un autre chemin, Hérode et berné, alors il est encore plus en rage. Et comme cet enfant-là lui a échappé, ben il essaye de l'avoir, entre guillemets, en faisant tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Son idée, d'une certaine façon, c'est de l'avoir dans la masse.
On retrouve l'idée du tout ou rien.
Ah oui, oui, oui. Je crois que tuer des bébés, c'est tuer la vie dans son émergence.
Hérode, on peut dire qu'il convoite imaginairement, là encore, une puissance qui peut-être le menace. Vous parlez de la convoitise dans le livre.
Bien sûr, cette puissance le menace. On voit bien que, de fait, Jésus va complètement renverser la puissance d'Hérode, mais pas du tout celle qu'Hérode
exerce.
C'est-à-dire, c'est pas son pouvoir politique que Jésus vient chercher. Et en même temps, Hérode est une figure plus forte que ça. C'est-à-dire, il est cette espèce de ce qui en nous vient se jeter sur la vie à sa naissance pour la détruire. Et y compris la vie qui germe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire la vie qui vient de l'autre en nous, qui échappe à notre emprise, à notre maîtrise et dont on ne veut pas.
Ce que vous dites, c'est que la petite voix de la jalousie nous susurre à l'oreille qu'il n'y a pas d'autre forme de relation que dominant, dominé, supérieur, inférieur. C'est-à-dire qu'on part dans la vie avec cette asymétrie, tout le temps.
Oui, on part dans la vie avec l'idée qu'il faudrait avoir tout pour soi. Et finalement, la Bible, avec le patou de la Genèse, nous dit, mais c'est pas ça le chemin de vie. Non, c'est d'accepter justement que tu n'as pas tout, que tu reçois de l'autre, que tu reçois la vie d'un autre. ça nous révèle vraiment ce mouvement un peu de rapte, de convoitise, d'emprise qu'on a sur la vie des autres, sur la nôtre, en voulant la garder, comme si le donateur allait arrêter de donner. C'est-à-dire, il faut s'emparer, il faut faire des provisions, il faut dominer, parce que sinon c'est un autre qui va me dominer. Vous avez raison.
Oui, c'est le propre de la convoitise. Alors, tous les jaloux ne passent pas à l'acte. Nous ne sommes pas tous des Caïn qui tuent leurs frères et des Hérodes qui massacrent. Mais vous dites qu'on peut tous ruminer de manière très profonde et très destructrice aussi à l'intérieur à cause de la jalousie.
Absolument. Quand on passe pas à l'acte, quand on n'est pas un jaloux qui va ruiner la réputation de son prochain pour lui faire perdre son boulot, enfin ça existe, hein. Voire le tuer, torturer, enfin on a des tas d'expériences. Alors on s'attaque à la vie en soi. C'est-à-dire on commence à se dévaloriser soi-même et à dire bah tu vois bien t'es rien. Enfin vous parliez de Caïn qui perd sa face, hein, c'est tu vois bien t'es rien, lui il est tellement bon. Et alors on commence à ruminer mais moi je ne sais pas, mais moi je ne suis pas, mais moi je gna gna gna, et ça nous pourrit la vie.
C'est la comparaison.
C'est la comparaison, oui.
Convoitise et comparaison sont un couple qui fonctionne ensemble.
Oui, alors la convoitise est pas toujours dans la comparaison, c'est-à-dire la convoitise c'est vraiment ce mouvement d'accaparement, je crois. Et la comparaison, ben, c'est le refus de la différence. C'est-à-dire, je veux être comme l'autre, s'il y a un écart entre lui et moi, donc s'il y a un manque, à ce moment-là, ça va plus.
Nous poursuivrons demain, Marie-Reine Mezzaroba, merci.
Au revoir.